Bonjour à tous, merci d'écouter Radio Aviva. Nous nous retrouvons pour ce magazine de la rédaction. Ce magazine de la rédaction un petit peu spécial, puisqu'aujourd'hui, je reçois pour une série de chroniques sur les systèmes scolaires à travers le monde, je reçois Isabelle Servant, qui est la fondatrice de l'association École du Monde, acteur en éducation. Bonjour Isabelle.
Bonjour Claire.
Mais Isabelle, vous n'êtes pas seule. Vous êtes accompagnée aujourd'hui de vos comparses qui vous aident donc sur ces cafés pédagogiques. Nous allons annoncer la date du prochain, on en parlera un petit peu plus, mais qui se déroulera le jeudi 25 avril à 20h à la Maison des relations internationales, qui portera sur le système des États-Unis et Canada.
D'Amérique du Nord.
Donc, Amérique du Nord.
Voilà, c'est ça. États-Unis, Canada, et le mois dernier, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est l'Amérique du Sud.
Et aujourd'hui, on est dans le Sud.
Dans le Sud.
Et pour ce faire, nous sommes accompagnés de Bénédicte Le Guérinel. Bonjour Bénédicte.
Bonjour Claire.
Vous êtes membre de l'association.
Oui.
Et nous avons également une locale, Christina Pachon. Bonjour.
Bonjour Claire.
Bonjour Christina, avec un très bel accent. Vous venez tout droit de Colombie. Vous êtes professeure d'anglais, Christina.
Oui, c'est ça.
Alors, je me tourne là maintenant vers Isabelle. Pour commencer cette chronique donc, sur le système scolaire Amérique du Sud, vous allez nous parler un petit peu du fonctionnement de l'Amérique du Sud, puisque bien sûr, il faut commencer par le principal et le commencement. Comment fonctionne ce pays ?
Alors, on va donner d'abord un préalable pour l'Amérique du Sud, parce qu'il y a des caractéristiques en fait, générales pour ces pays. La première, c'est qu'il y a un déséquilibre de richesse. Et c'est important de le poser en préalable. On a quand même en moyenne dans ces pays-là, 35% des personnes, une personne sur trois, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc une personne sur trois est pauvre, est considérée comme pauvre. Ça va une personne sur cinq en Colombie et on va voir que ça a un impact direct sur l'éducation. Mm-hmm. Parce que s'il y a une information en fait à retenir sur ces pays d'Amérique latine, nous on dirait qu'on a focalisé un petit peu plus sur l'Amérique du Sud au dernier café, mais de manière générale, c'est qu'il y a deux systèmes qui fonctionnent en parallèle, le système scolaire public et le système scolaire privé. Et la qualité de votre éducation est plus ou moins liée aux frais de scolarité. C'est-à-dire qu'on a un système scolaire public qui est gratuit, mais de qualité très très inégale et de manière générale mauvaise. Et puis on a une éducation privée qui est de qualité, mais qui coûte très très cher. Donc en fait, de manière générale, l'école est un véritable investissement. On en parlait tout à l'heure avec Christina, mais Michel m'avait donné cette citation qui est absolument magnifique. Son père lui avait dit « Le seul héritage que je peux te donner, c'est l'éducation. » Donc il y a vraiment une conscience que l'école est le moyen pour avoir une bonne éducation. Donc il y a cet amour de l'éducation, il y a ce respect de l'éducation, il y a ce respect de l'enseignant qu'on a peut-être parfois un petit peu perdu ici. Mm-hmm. En tout cas, l'école est vraiment le lieu de savoir. Mais par contre, il faut investir financièrement pour avoir un enseignement de qualité, si ce n'est, et je mets un bémol, l'enseignement supérieur de qualité est bien meilleur que le privé. Donc en fait, comment font les gens ? Eh bien, quand ils ont de l'argent, ils mettent leur enfant dans l'école publique au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, pour espérer après rentrer dans l'enseignement public au niveau de l'enseignement supérieur. Donc ça, c'est vraiment une des caractéristiques de ces pays. Christina, peut-être tu peux compléter en par rapport à ça ?
Oui, effectivement, il y a les deux systèmes. Personnellement, j'étais la plupart des temps dans les écoles privées. J'ai juste passé un an à une école publique. Et c'est vrai que la qualité est meilleure dans les écoles privées, dans les écoles catholiques. J'étais dans une école de bonnes sœurs. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a quelque chose qui est remarquable, c'est qu'on essaye de... On travaille beaucoup sur l'appartenance à l'école, donc on se sent très très proche, que ça soit public ou que ça soit privé, on est fier de l'école auquel on appartient.
Donc l'éducation a une part quand même très importante en Amérique du Sud, en règle générale.
Oui, oui, effectivement, et les élèves, ils le ressentent, et ils se sentent très attachés à l'école, ils sont fiers quand ils portent leur uniforme, c'est quelque chose qui on a tous vécu.
Donc le port de l'uniforme est obligatoire.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Maintenant, j'allais donner sur les caractéristiques communes. Alors juste avant, au niveau, on va donner juste les évaluations, parce que c'est important quand même, dans cette différence public-privé, parce que c'est vraiment une des caractéristiques d'Amérique du Sud. Mm-hmm. Donc effectivement, il y a deux enquêtes internationales à l'heure actuelle qui évaluent les résultats scolaires, les performances scolaires de ces pays d'Amérique du Sud. Et on se rend compte actuellement, donc CERCE 2006 qui a simplement évalué les 16 pays d'Amérique latine, il y a un enfant sur trois qui n'a pas le minimum requis en lecture et un enfant sur deux qui n'a pas le minimum requis en mathématiques. Et ça monte encore en flèche sur l'enquête internationale PISA en 2009 dont on avait parlé, où là on arrive quasiment à 70%. Mmh. Donc deux élèves sur trois qui n'ont pas le minimum requis Là, dans, ce cas, dans le cas dont on parle, c'est en mathématiques. Et un enfant sur deux n'a pas le niveau en lecture ni en sciences. Donc, tu vois, c'est, vous
voyez, un petit bémol pour Cuba, quand même.
Avec là, exactement. Alors, simplement, le seul pays qui se démarque largement, c'est Cuba, où simplement un enfant sur dix n'a pas le minimum requis. Donc, on pourra parler peut-être tout à l'heure de Cuba, parce que c'est vraiment
un système
à part, et c'est particulier. Et donc, il y a un point qui a été absolument passionnant qu'on a découvert dans ce café, c'est par contre la compétence sociale qui est enseignée, qui est transmise via ces écoles. En fait, le souci principal, on a vu que dans certains pays, tout au long de notre tour du monde des écoles publiques, on focalisait sur le bonheur, sur l'épanouissement. Eh bien, l'Amérique du Sud, une de ses caractéristiques, c'est de transmettre des compétences sociales, apprendre à vivre ensemble et à bien vivre ensemble. Et l'unité nationale fait partie de ces caractéristiques.
Est-ce que vous pensez que l'éducation s'adapte à la culture ou s'adapte aux contraintes du pays ?
S'adapte probablement aux contraintes du pays. Alors, je vois Christina qui acquiesce de la tête.
Effectivement, on rencontre un grand problème de pauvreté en Amérique du Sud, enfin dans certains pays. Et l'éducation est quand même au centre, justement, de la société, de l'évolution qui peut se faire. Du coup, peut-être qu'on retrouve justement cette sensibilité sociale au niveau de l'école par rapport aux problèmes de pauvreté, éventuellement, dans le pays.
Et oui, parce que justement, je pense que les gouvernements en Amérique latine, ils essayent d'investir et ils savent que la clé pour s'en sortir, c'est l'éducation. Il faut former les gens pour qu'ils puissent faire quelque chose le lendemain, les nouvelles générations. Et justement, dans les cas de la Colombie, l'éducation s'adapte au contexte, parce que chaque ville et chaque quartier et chaque école est différent. Donc vraiment l'éducation s'adapte aux valeurs culturelles, à la culture et à la société et à un contexte en particulier. Donc c'est une éducation qui est vraiment très flexible et qui est très adaptable.
On a découvert notamment qu'il y a ce qu'ils appellent les programmes PEI. En fait, il y a le programme national et finalement, au niveau local, on peut adapter complètement le programme scolaire aux spécificités...
C'est un petit peu la carte.
Aux spécificités locales et c'est important. Et on peut revenir aussi sur l'uniforme parce que ça, c'est quelque chose qui est typique de l'Amérique latine de manière générale. Et encore pour aller plus loin, parce que l'uniforme, c'est synonyme d'unité nationale. Pour avoir une unité nationale, tous les enfants et l'égalité des chances, on porte l'uniforme, on appartient à une école et à une nation. Et pour appartenir à une nation, il y a le lever du drapeau quotidien et le chant de l'hymne national quotidien, et même on découvrait tout à l'heure avec Christina, elle nous expliquait qu'il y a même l'hymne national qui passe à la radio en Colombie tous les matins à 6h, tous les soirs à 6h.
Donc Christina, tu disais que ça faisait office d'horloge, ça vous rappelait
Oui, en fait c'est quelque chose de très, très folklorique, mais on a grandi avec ça. En fait, dans les écoles, oui, effectivement, chaque école a son uniforme. Dans les cas de la ville où je viens, dans la région où je viens, l'école publique, tous les élèves ont le même uniforme. Déjà, il faut savoir qu'il y a trois uniformes. Il y a l'uniforme de tous les jours, il y a l'uniforme de sport et il y a l'uniforme des occasions,
des cérémonies.
Et le pyjama aussi.
Voilà, déjà ça. Mais dans la région où je viens, il y a tous les élèves de l'école publique ont le même uniforme. Pourquoi ? Pour faciliter les déplacements et les changements des écoles. Quand un élève, on va dire, sa famille se déplace d'un quartier ou d'une ville à l'autre dans la même région, Son enfant, il va avoir le même uniforme. Il a juste à changer les logos,
les
cuissons qu'il porte sur sa droite de la chemise. Voilà. Donc, ça fait des économies et comme ça, ça facilite les choses. Ça, et oui, effectivement, l'hymne national, on l'écoute toujours à 6h du matin, 6h du soir. Et dans ma ville, on écoute aussi, après l'hymne national, l'hymne du département ou de la ville. Donc, ça renforce vraiment le patriotisme. On aime beaucoup.
On avait découvert effectivement qu'il y a parfois même jusqu'à 4 hymnes qu'ils connaissent
par jour.
Non, peut-être pas tout le temps par jour, mais en tout cas, il y a l'hymne du pays, l'hymne de la région, l'hymne de la ville et l'hymne de l'école.
Il me semble que c'est en Thaïlande également, donc il se passe ce genre de choses-là.
C'est énorme. Et en fait, voilà, on nous expliquait qu'à Cuba, notamment, donc tous les jours, hein, comme dans la majorité des pays d'Amérique latine, en fait, on a le lever du drapeau et chant de l'hymne national. Et quand on rentre dans la classe, on chante l'hymne de l'école.
Et alors, ça donne quoi si on chante l'hymne ? Parce que Christina, je pense que vous la connaissez par cœur.
Oui, oui. Mais il y a une autre chose qui peut-être il faut ajouter, c'est que les commerces aussi, ils s'engagent à ça. Parce que quand il y a, par exemple, des célébrations culturelles qui sont reconnues au niveau national, qui correspondent justement aux jours fériés, tous les commerces, c'est obligatoire qu'ils décorent les boutiques, les choses avec la décoration qui correspond à cette fête. Mm-hmm. Donc normalement, ça fait partie aussi de la, je sais pas, d'une espèce d'ambiance de patriotisme ou de culture, de mm-hmm. faire
de vivre. Lier les gens en fait, de les...
voilà, de faire que les gens ils partagent la même chose, la même mm-hmm.
Sois fier de leur pays et
voilà, c'est plutôt ça. C'est plutôt mm-hmm. ça.
Et pour les enfants, ça n'est pas vécu comme une contrainte, mais plutôt un plaisir de partager.
Ouais. Ah
un
oui,
événement
oui, oui,
commun.
Parce qu'on est content. Exactement, on est mm-hmm. content de savoir qu'on doit danser telle danse qui appartient à notre ville.
Il n'y a jamais des enfants qui pleurent au moment où ils chantent ou dansent.
Non, mais danser, non, oui, bon, bref. Mais...
Ils sont obligés en fait.
Oui, ils sont obligés, mais je trouve qu'ils ne les voient pas trop comme une imposition, mm. mais plutôt que c'est un vécu et comme tout le monde participe, on a la maman qui a dansé, la mamie qui a dansé, la sœur qui a dansé, mm-hmm. donc ça vient naturellement, c'est ouais. spontané. Mm-hmm. Donc,
mais en fait, c'est même la deuxième caractéristique de ces pays d'Amérique du Sud, parce que le premier, c'est l'unité nationale, le deuxième, c'est le respect des traditions, mm-hmm. le rapport aux traditions mm-hmm. et à la culture. En fait, en Colombie, parce que c'est Christina qui a la parole, en fait, ils apprennent la musique, les chants traditionnels, les jeux traditionnels, les contes pendant 2h30 par jour.
Ah oui, ça fait partie donc, presque intégrante du programme.
Ah non, mais ils ont même plus d'heures mm-hmm. de cours de folklore, de danse, de musique que de cours traditionnels.
D'accord.
Ah, ils ont, ce qu'on avait calculé dans un emploi du temps, ils avaient 2 heures d'enseignement mathématiques, sciences, etc., divers et variés, et 2h30 à l'école primaire de cours de danse, de folklore et de tout ce qui est en lien avec leur tradition. D'accord. Donc il y a vraiment un lien très très fort. Plus une fois par mois, et c'est quasiment dans tous les pays, ils ont des journées de commémoration. Donc ils ont la journée, alors j'avais entendu la journée de la race qui est vraiment connue, oui. mm-hmm. donc ça veut dire les différences culturelles, mais il y a la journée de la femme, la journée de la paix, la journée du professeur, mm-hmm. et en fait pendant, Christian tu vas pouvoir peut-être nous en parler, et en fait pendant quelques jours avant, ils préparent cet événement, et c'est voilà, pour faire des célébrations et des commémorations, et tout cela est très officiel, très mm-hmm. très officiel.
Et c'est des jours fériés ces jours-là?
Oui, c'est des jours fériés, c'est des jours fériés parfois mobiles, c'est-à-dire si ça tombe, si ça tombe sur un samedi, on peut les décaler au lundi. Donc,
ah, c'est bien ça.
Pour profiter de bon.
Ça, c'est un truc oui. qu'on devrait récupérer en France.
Oui, oui, oui. C'est, effectivement, il y a un président qui l'a, je ne sais pas, institutionnalisé ça. Les jours fériés, ce n'est pas que pour rester au lit. En fait, ça aide aussi au commerce. C'est pour développer un autre type de commerce, commerce mm-hmm. tourisme, commerce plaisir. Mais c'est aussi pour se rappeler d'une fête historique. Et effectivement, comme il a dit Isabelle, on les prépare à l'avance, si c'est une célébration historique, il faut faire les théâtres sur, je ne sais pas, l'indépendance de la Colombie par rapport à l'Espagne, donc on se prépare, on fait une pièce de théâtre, on se déguise, voilà, les drapeaux, tout ça. C'est rigolo, mais on apprend mm-hmm. l'histoire.
Et c'est très important, en fait, c'est ce qu'on a retenu dans ces pays, quand on a découvert ces pays d'Amérique du Sud, c'est le côté ludique. On insiste beaucoup, c'est sérieux, mais en fait, il y a quand même une joie d'aller à l'école et on essaie autant que possible voilà, de transmettre via le ludique beaucoup d'affect aussi dans ces pays d'Amérique du Sud, de manière générale. En tout cas, tous nos invités ont insisté là-dessus. C'est qu'en fait, les enseignants se sentent proches des élèves, mm-hmm. les encouragent. On ne peut jamais, absolument jamais, dénigrer un enfant. Comme on pourrait l'entendre ici, peut-être, éventuellement, tu es nul, il n'est pas bon. En fait, rabaisser un enfant est complètement impossible. On exprime même quand au Venezuela, il est impossible de dire « tu es puni ». On ne punit pas les enfants. on vous expliquer tout à l'heure comment ils font. En fait, ils ont ce qu'ils appellent des règles de convivialité. Mm-hmm. En fait, au début de l'année, vous l'avez également aussi, Christina, les
oui,
règles de convivialité.
Oui, on applique la convivialité beaucoup.
D'accord.
Ouais.
Alors,
c'est un peu le concept des images.
Alors, en fait, le premier jour de l'année, on explique aux élèves, les élèves ont des droits et des devoirs. C'est quelque chose de très légiféré. Mm-hmm. Donc, le premier jour, on explique aux élèves la constitution des élèves, leurs droits et leurs devoirs. Mais après, quand ils rentrent dans la classe avec le professeur, ils établissent ce qu'ils appellent les règles de convivialité, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire en classe pour bien vivre ensemble et bien apprendre. On l'écrit sur une feuille, tout le monde le signe, mm-hmm. c'est affiché, c'est la charte de bien apprendre ensemble. Et donc, c'est appliqué au tableau, enfin, dans la salle. Et donc, Si l'élève bafoue les règles, l'enseignant lui dit « Regarde, tu as signé la règle de convivialité. » Et voilà, l'enfant est pris en flagrant délit.
Il a la honte devant toute la classe.
Il a la honte devant toute la classe. Donc les règles de convivialité, et on avait même appris que ça allait très loin, donc ces règles de convivialité, il y a la LOPNA, donc c'est la loi constitutionnelle dont j'ai parlé tout à l'heure. Mm-hmm. Et en fait, l'enfant a le droit d'aller porter plainte contre les enseignants qui ne respectent pas cette loi, ou même contre ses parents éventuellement. Enfin, on avait souri, nous, parce que c'est tellement différent de notre culture. Cet enfant qui est allé porter plainte officiellement parce que ses parents l'amenaient systématiquement en retard le matin à l'école.
Il a porté plainte contre ses parents.
En fait, il allait signaler que s'il arrivait tous les matins en retard à l'école, ce n'était absolument pas de sa faute. C'était la faute de ses parents. Voilà, c'était une sorte de négligence parentale. Et on avait trouvé ça énorme, en fait. Il avait effectivement pu le signaler, et donc il y avait eu quelque chose de très officiel.
Et alors les parents leur ont montré la charte, alors.
Ça peut être ça.
Je me tourne vers Bénédicte. Quel est le regard que vous portez, vous, Bénédicte, sur le système d'Amérique du Sud, sur ce système scolaire?
Alors moi, j'ai retenu deux éléments qui m'ont beaucoup touchée. J'ai généraux à chacun de ces pays d'Amérique du Sud et qui sont très étrangers à nous, Français. Isabelle parlait de la convivialité. On a beaucoup entendu parler d'affection de la part des élèves, enfin des grands élèves, hein, nos témoins, nos invités, du rapport entre enseignants et élèves qui était très très proche, au point que ça ne choque personne, et même c'est très encouragé qu'un enseignant prenne un élève sur ses genoux, lui fasse un petit câlin, des petits bisous, et chacun est demandeur de ce rapport. Christina, on peut développer sur ce point ?
Oui, ben en effet, l'affect, les sentiments, c'est quelque chose qui joue un rôle important, je pense, dans l'éducation en Amérique latine en général. Et c'est vrai quand on est, bon, c'est vrai que là, l'histoire des bisous, des câlins, c'est plus dans l'école primaire.
Bien
donc,
sûr.
Dans les universités aussi.
Mais oui, ça se voit beaucoup. Je l'ai vécu quand j'étais professeur dans des maternelles ou dans l'école primaire. Les élèves, les petits, ils arrivent, la première chose qu'ils demandent, c'est faire un bisou. Et même parfois, c'est plus important ce qu'il dit la prof, la maîtresse à l'école, que ce qu'il dit maman. Donc pour eux, la loi, c'est ah non, mais ma maîtresse, la prof, il a dit ça. Et, donc,
et les parents respectent ce regard de la part des enfants.
Oui, les parents respectent beaucoup ce qui, pour eux, c'est la loi, ce qu'il dit la prof ou les profs. Ça, c'est important. Et une autre chose, c'est que, par exemple, on a ce qui équivaut à Saint-Valentin ici, on l'a fait en septembre, et c'est le jour de l'amour et l'amitié. Mmh. Et c'est une célébration, bon, c'est vrai que c'est un peu commercial, mais on le fait dans toutes les écoles, que ça soit public ou privé, ça s'est fait. Et ça, on joue à l'ami secret, donc il y a beaucoup de sentiments parce qu'on met tous les noms, nos noms, les noms des élèves dans un petit sac, mais bien sûr dans le petit bout de papier, il est plié, on ne voit pas qui c'est, on mélange, on secoue et chacun sort le nom. Donc, je sais que je vais voir Camille ou Miguel, qui va être mon ami secret. Et pendant tout un mois, le mois de septembre, ben, on l'envoie des messages, on lui laisse un petit cadeau, un chocolat ou un truc comme ça, on le laisse, sans découvrir encore qui est. Et à la fin, on se donne un petit cadeau, ben, on établit un budget, pas grand-chose, sinon, comme on a fait une fois, on va se donner une pomme, mais chacun va décorer la pomme selon ce qu'il inspire son ami secret.
Et il y a des déceptions, des fois, quand on se rend compte qui est l'ami.
Bon, oui, ça peut arriver.
J'imagine qu'il y a des enfants qui se détestent aussi, ça.
Oui, ah mince, j'ai sorti, bon, oui, voilà. C'est vrai. Mais bon, c'est justement, c'est pour un peu pour développer, voilà, l'amitié, les sentiments.
Est-ce que c'est une pratique qui est répandue dans toute la Colombie?
Dans toute la Colombie, les commerces y rentrent, voilà, c'est tout, ça se vit, c'est un mois de ça.
Et on devrait le faire avec les adultes aussi.
Oui, ah oui, on devrait le faire, oui. Là-bas, on le fait à l'université, dans les boîtes, dans les boîtes entreprises, dans les sociétés, ça s'est fait.
C'est vraiment ce qu'on a l'impression dans l'Amérique du Sud, c'est que tout est prétexte à fête,
ludique.
Vraiment, c'est qu'ils apprennent le folklore, les traditions, les danses, la musique, et après, il y a toutes les journées de célébration. Voilà, tout est prétexte à faire la fête.
Et puis finalement, ce qui ressort aussi, c'est le rapport humain qui est mis au centre, finalement, qui est très important, finalement, le rapport entre les gens, de se respecter, de s'aimer, de s'entraider. J'ai l'impression que c'est un petit peu les valeurs, du pays, ce qui est véhiculé.
Il faut se souvenir aussi que ce sont des pays qui sont catholiques et très pratiquants.
D'ailleurs, oui, j'allais vous demander dans le public. de la religion est quand même très présente, j'imagine,
oui.
aussi.
Oui, oui, ouais. parce que même la Constitution, quand on lit la Constitution, ça commence par la bénédiction de l'Église catholique, de Dieu. Donc, on est catholique, c'est vrai, dans les écoles, dans l'éducation publique, on enseigne la religion catholique, mais ces enfants ou ces élèves qui ne professent pas, qui ne sont pas catholiques ou chrétiennes, qui ont un tel type de religion ou qui sont même athées, ils ne sont pas obligés de suivre. Bon, ils peuvent les suivre pour avoir une note, mais ils ne sont pas obligés de pratiquer, de faire des pratiques religieuses.
Et ils ne sont, sont pas forcément punis ou mis de côté
Non. Non,
par contre, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que toutes les vacances scolaires sont calquées sur les fêtes religieuses. Donc, quand on a fait le café, c'était en pleine semaine sainte.
Ah oui.
Donc, tous nos invités étaient vraiment très connaisseurs, ils pratiquaient, etc. Alors que nous, on était pas... Ah, c'est quoi ? On se posait tous des questions, alors que vraiment, c'est quelque chose partie prenante. Ils peuvent même faire donc des prières, éventuellement. Ils apprennent la religion, ils ont des cours de religion. Mais dans certaines écoles publiques, on peut même faire des prières après ce fameux lever de drapeau et hymne national, on peut éventuellement faire des prières et on peut éventuellement même passer sa communion via l'école, donc ça peut aller même très très loin y compris dans l'école publique.
On va marquer une petite pause musicale, on va se retrouver juste après pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, surtout de parler des points forts et des points faibles de ce système puisqu'on n'a pas évoqué les points faibles encore, mais j'imagine quand même qu'il y en a, enfin j'espère,
on va y arriver.
Parce que pour l'instant c'est vrai que ça fait payer des bisounours, donc on va essayer de voir un petit peu s'il y a aussi des choses qui peuvent être montrées du doigt. On marque une petite pause musicale, on se retrouve juste après.